VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier à Genève que l'épidémie du virus Zika, soupçonnée de causer des malformations congénitales, constituait une urgence de santé publique de portée mondiale. À l'issue d'une réunion exceptionnelle de son comité d'urgence, l'OMS a jugé qu'un lien existe entre ce virus transmis par un moustique et une hausse exceptionnelle des cas de microcéphalie, malformation congénitale dont souffrent les enfants nés avec une petite tête. Des précisions avec Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève.
Ils se sont réunis par téléconférence. Ils ont décidé de déclarer que les désordres neurologiques et les malformations des enfants et des adultes est une préoccupation sanitaire de portée internationale, mais pas Zika. Zika est un virus qui ressemble à la dengue, au chikungunya et à la fièvre jaune et qui sévit dans beaucoup, beaucoup de pays depuis son apparition en 1947. Il ne constitue pas une préoccupation majeure de santé publique. Ce qui constitue une préoccupation majeure, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien temporel et spatial entre le virus Zika et l'apparition de syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalée. La microcéphalée étant une maladie qui touche les enfants qui naissent avec des petites têtes. Est-ce qu'il y a un lien? Pour l'instant, scientifiquement, le lien entre Zika et la microcéphalée et les autres désordres neurologiques n'est pas prouvé, d'où l'importance de déclarer cela comme une urgence sanitaire de portée internationale afin d'expéditer les recherches et la mobilisation internationale pour essayer de voir est-ce qu'il y a un lien et s'il y a ce lien, comment en sortir.
Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève. Afrique maintenant, au Nigeria, le bilan de l'attaque de samedi à Dalori, près de Maïdougouri, est révisé à la hausse. Les autorités parlent d'au moins 85 morts dans cette attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram. Eric Manirakiza.
D'une cinquantaine de morts, le bilan est passé à au moins 85 à Dalori, selon le docteur Haruna Mcheliya, commissaire à la santé pour l'État de Borno. Baluma Maloum, un rescapé, affirme avoir vu dans ce village au moins 20 cadavres tellement calcinés qui ne sont pas identifiables et que 15 villageois sont toujours portés disparus. Moussa Adamou, membre des milices d'autodéfense, a parlé de plus de 100 morts, mais ce chiffre n'a pas pu être vérifié. Le président Muhammadu Buhari doit se rendre mercredi à Strasbourg, s'adresser au Parlement européen. Il se rendra ensuite le lendemain à Londres pour assister à une conférence de donateurs pour la Syrie et plaider pour plus de soutien au Nigeria et aux autres pays en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
Procès des présumés assassins du général Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Le général Bruno Dogbo-Blé, un ex-homme fort du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, a nié toute implication dans l'assassinat en 2002 de l'ex-chef de la junte ivoirienne. 19 personnes, dont le général Dogbo-Blé et Anselme Sekayapo, ancien responsable de la sécurité rapproché de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, sont jugées devant le tribunal militaire à Abidjan. Accusé de complicité, le général Dogbo-Blé a répété « Je n'y étais pas », rapporte l'AFP. Pourtant, 5 co-accusés ont assuré l'avoir vu à la cathédrale où le général Gueye avait été arrêté. L'épouse du général Putschis, des membres de sa famille ont également été tués le même jour.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, Congo-Brazzaville, Amnesty International appelle les autorités congolaises à libérer immédiatement et sans condition l'opposant Paulin Makaya, président de l'organisation Unie pour le Congo, qui est en prison depuis plus de 2 mois. À l'approche de la présidentielle du 20 mars, Paulin Makaya est poursuivi pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre 2015, ainsi que pour détention illégale d'armes de guerre et complicité d'incendie d'édifices publics. L'Organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres estime que M. Makaya est un prisonnier politique. Retour sur le 26e sommet de l'Union africaine qui s'est terminé ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État présents ont renoncé à envoyer une force de maintien de la paix au Burundi et ont choisi plutôt de privilégier la discussion avec Bujumbura. C'est une grande déception pour les Burundais opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou faux codés.
C'est une réaction d'indignation parce que cette organisation panafricaine a raté une occasion historique pour pouvoir mettre à son actif une réalisation sanitaire en refusant la mission pour la protection du Burundi Maprabou. L'organisation panafricaine a raté une occasion historique. D'un autre côté, on n'a pas été surpris parce que la plupart des chefs d'État ont refusé de créer un antécédent qui pourra aller poursuivre parce que certains sont hantés par l'esprit de dépasser les mandats, de violer les constitutions. Comme vous le disiez, là, c'est... En plus, la décision qui a été prise est incompréhensible, voire inquiétante. Vouloir dire que pour secourir le peuple burundais qui est en train d'être tué, arrêté, exécuté, torturé, dire qu'ils doivent demander l'autorisation du bureau pour pouvoir secourir les citoyens burundais, c'est historique, c'est incompréhensible et ça dépasse toute logique.
Maintenant, quelle solution pour le Burundi, selon vous?
Pour le Burundi, je crois que et les Nations Unies et l'Union africaine qui étaient des institutions internationales garantes de la sécurité dans le monde, comme elles se montrent très réticentes à pouvoir secourir le peuple burundais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils assument la responsabilité de ce qui va arriver au peuple burundais. Il y a un génocide qui a commencé à petit feu. Tous les signaux montrent que si rien n'est fait d'un moment à l'autre, il peut y avoir un embrasement de tout le Burundi et aussi avec des conséquences au niveau de la sous-région et voire au niveau du monde entier. Dans ce cas, il faut que ces institutions puissent assumer la responsabilité.
Est-ce qu'il n'y a pas de solution de discussion soit à Arusha ou bien à l'intérieur du Burundi?
Ce qui n'est pas concevable ou compréhensif, c'est que à la fois le pouvoir de Bujumbura refuse une forme de protection des citoyens qui sont en train d'être tués par les forces de sécurité, et d'un autre côté, il refuse le dialogue qui est la seule solution incontournable pour pouvoir rétablir l'ordre dans le pays. Plus de 9 mois, s'il y a des déclarations, s'il y a des démissions, s'il y a des initiatives théorique. Et je pense que le moment des initiatives théoriques était terminé, qu'il faudrait passer par des actions concrètes.
Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCODE, au Burundi. Afrique du Nord maintenant, crise en Libye, l'ouverture de nouveaux fronts dans ce pays contre le groupe État islamique EI est désormais sérieusement envisagée par les États-Unis et d'autres États qui se réunissent aujourd'hui à Rome, mais une intervention militaire s'annonce délicate à lancer. Pour leur part, les pays africains s'inquiètent de l'avancée de l'État islamique dans le sud libyen, une immense zone désertique, ce qui est en particulier dangereux pour le Niger et le Tchad, selon le chef de la mission de l'ONU en Libye, Martin Kobler. Et puis en Tunisie, 3 djihadistes présumés ont été tués et un membre des forces de sécurité blessé dans le cadre d'une opération antiterroriste dans la région de Gabès, dans le sud du pays. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Campagne électorale aux États-Unis maintenant. Dans le camp républicain, le milliardaire Donald Trump a subi un net revers en terminant deuxième hier à la première étape des primaires présidentielles américaines dans l'Iowa. Côté démocrate, les résultats non définitifs des caucus de l'Iowa montraient un écart infime entre Hillary Clinton, l'ex-secrétaire d'État, et le sénateur Bernie Sanders dans le nombre de délégués obtenus. Anne Albertson.
Appelés à choisir leur candidat pour l'élection du 8 novembre, qui désignera le successeur de Barack Obama, républicains et démocrates se sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de ce petit État agricole du Midwest. Dans les deux camps, et dès la prochaine échéance du New Hampshire, le 9 février, la lutte s'annonce âpre. L'ultra-conservateur Ted Cruz, vainqueur lundi côté républicain, tentera de capitaliser sur ce bon départ. Hillary Clinton, favorite avant le caucus de l'Iowa, était quasiment à égalité avec le surprenant sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Aucune télévision américaine ne s'aventurait à désigner un vainqueur entre les deux candidats, séparés par quelques dixièmes de points seulement. Les primaires du New Hampshire suivront donc la semaine prochaine, puis les autres États jusqu'en juin. Les candidats des deux partis seront désignés en juillet.
Et pour terminer la crise en Syrie, une rencontre de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et la délégation du régime de Damas a commencé aujourd'hui au Palais des Nations de Genève, où un fragile processus de discussion se met en place pour tenter de régler la crise syrienne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.